Docteur Jean-Pierre Française, bonjour.
Oui, bonjour Sandra.
Je vais évoquer avec vous ce qu'on peut dire sur le thème de l'alimentation et ses angles sanitaires et écologiques. Alors, autant être chronologique, et je vais commencer par le petit déjeuner. Alors, êtes-vous thé ou café? Et à mi-émission, vous pourrez donc témoigner. Alors, quel petit déjeuner consommer? Voici les conseils d'une diététicienne de centre hospitalo-universitaire. La première règle est de ne pas le prendre que si et quand on a faim. Et de ne le prendre que si on a faim, donc. Si on n'a pas d'appétit au saut du lit, il ne faut pas se forcer. On décale à plus tard dans la matinée avec un encas vers 10 heures. Sinon, c'est l'hypoglycémie en fin de matinée. Alors, le petit déjeuner doit comporter 4 éléments. Le premier, c'est une boisson, évidemment, pour se réhydrater. Chaude ou froide, selon ses goûts, thé, café, infusion, verre d'eau. À peu près 200 millilitres. Le deuxième élément, c'est un produit laitier. Yaourt, fromage blanc, petit suisse ou fromage, ou une boisson comme un verre de lait. Un produit céréalier, pain ou céréales, mais pas n'importe lesquels, et j'en reparlerai. Un fruit frais de saison, et ce fruit est préférable au jus puisqu'il contient encore toutes ses fibres et vitamines. Alors on peut également ajouter, si on a de l'appétit, des protéines animales, jambon ou œuf par exemple, à condition de réduire la dose des protéines animales aux autres repas. Alors question fréquente, puis-je ne manger que du pain car je n'ai pas faim? Il vaut mieux manger un peu moins de pain, et ajouter les autres éléments recommandés pour plus de variété dans le même repas. Cette diététicienne donne 3 bons exemples de petit déjeuner sain avec ces 4 éléments. Alors, le premier, thé et pain complet beurré, 30 g de fromage, 125 g de fruits de saison. Le deuxième, le café avec un peu de lait, on en reparlera. Plus mussi sans sucre ajouté avec une poignée de fruits oléagineux, noix, amandes, noisettes et 125 g de fruits de saison. Et le troisième, un grand verre d'eau non calorique, donc qui permet d'apporter les 4 autres éléments. Pain complet, œuf coque, un yaourt nature, 125 g de fruits de saison. Alors, à quoi ressemble le petit déjeuner des Français? Des chercheurs du CREDOC ont recruté en 2018 plus de 1700 volontaires et leur ont demandé de renseigner leurs habitudes. 90% des personnes interrogées prennent au moins 5 jours sur 7 un petit déjeuner, ce qui est bien. Mais certains comportements préjudiciables existent, comme le fait que 17% des adolescents sautent presque systématiquement le petit déjeuner ou que 30% des répondants avouent manger devant un écran. Or, des chercheurs ont observé que statistiquement, les personnes souffrant de surpoids étaient aussi celles qui mangeaient le plus souvent seules et ou devant la télévision ou l'ordinateur. Il n'est pas sain non plus que plus de la moitié des enfants boivent du jus de fruits à la place d'un fruit. Les adultes, c'est à peine mieux. Uniquement 14% d'entre eux mangent un fruit. Alors, premier élément, et on va en parler un grand moment, le café. Le café est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. Les Français en achètent en moyenne plus de 5 kilos par an. Nous nous situons en 9e position de consommation en Europe. La France importe essentiellement des cafés sous forme de café déjà torréfié, en priorité auprès de pays européens et principalement la Suisse, et non directement auprès de pays producteurs tropicaux. Le café constitue près de la moitié du breuvage des Français au petit déjeuner, dépassant de peu le lait, seul ou accompagné, et 2 fois plus qu'un jus de fruits et 4 fois plus qu'un thé. Les Français consomment par ordre décroissant de fréquence du café à partir de capsules, puis de café moulu, de café soluble et enfin de café en grains. L'arabica compte pour 70% de la production mondiale, alors que le robusta compte pour 30%. La culture du café s'effectue aux mêmes latitudes entre les tropiques du Cancer et du Capricorne tout autour du globe. Les Français consomment la variété arabica et très peu de robusta, ce dernier souvent mélangé dans des cafés moulus premier prix ou dans du café soluble. Alors la trace écologique est notre attitude écologique vis-à-vis du café. La trace écologique globale d'une tasse est très difficile à café, de café est très difficile à évaluer, mais une multinationale canadienne du café l'a mesuré en équivalent d'émissions de gaz à effet de serre, en étudiant toute la chaîne de production jusqu'à notre tasse. Les résultats sont surprenants. Alors que l'étape de l'irrigation des plants au traitement et au lavage du café prend énormément d'eau, cette étape ne représente que 6% des émissions, soit le secteur le moins important de la trace écologique d'un café bu à domicile. Le transport sur de longues distances en général pour arriver aux tasses des consommateurs ne représente aussi que 11% des émissions. Par contre, l'emballage, des sacs de jute de café aux emballages primaires, secondaires ou tertiaires en carton et plastique, représente près de 30% des émissions de CO2. Encore pire, la somme de la production industrielle des cafetières, de leur consommation d'énergie une fois installée, dégage plus de la moitié des gaz à effet de serre. Pour avoir des détails sur leur consommation optimale, on peut consulter le site eco.be en cherchant l'article « Quelle machine à café choisir ?» de février 2019. Donc c'est assez récent. Mais il serait écologiquement improductif de se précipiter à changer sa cafetière encore opérationnelle sous prétexte que c'est mieux d'avoir chez soi un modèle qui accepte du café fraîchement moulu à partir de café acheté en grains. À notre niveau, 6 gestes écologiques peuvent être faits. Alors le premier, vu l'importance de l'emballage, que ceux d'entre nous qui le peuvent, pour des raisons d'accessibilité, se procurent du café en vrac chez un torréfacteur local, ou dans les nouveaux commerces dits zéro déchet. C'est sûr que l'on ne doit pas prendre un véhicule pour s'en procurer, cela annihilerait le gain écologique. Deuxième geste, acheter un café certifié équitable. Et ça, ça me paraît très important. Fair Trade Max Havelaar certifie une production équitable, c'est-à-dire les conditions des travailleurs. S'il ne cible pas spécifiquement la protection de l'environnement, dans les faits, de nombreux cafés de ce label sont également bio. Parmi les 25 millions de petits agriculteurs responsables de 80% de la production mondiale de café, plusieurs n'arrivent même pas à gagner suffisamment d'argent pour vivre de façon convenable. Par contre, avoir un prix minimum garanti dans le cadre d'une filière certifiée équitable permet d'apporter un prix double aux producteurs. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à un producteur non protégé par la filière. D'ailleurs, le commerce équitable Fairtrade Max Havelaar bénéficie aujourd'hui à plus de 1 million de producteurs et travailleurs qui ce commerce équitable ne se limitant pas à la filière du café. On le verra pour le cacao, par exemple. Alors, troisième geste écologique, acheter un café certifié bio, c'est-à-dire qu'il y a le logo AB ou le logo européen sous forme d'un drapeau vert où figure une figure étoilée. Je ne sais pas si ça vous parle. Car cela garantit l'absence d'engrais ou pesticides de synthèse. En général, le café équitable est aussi certifié bio, hein, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides résiduels dans notre café, comme l'a montré la revue 60 millions de consommateurs en avril 2018, à partir de l'analyse de 14 paquets de café moulu bio du commerce. Donc c'est rassurant. Donc acheter un café équitable et bio, pour cela, il devra donc comporter deux logos, par exemple, logo Fairtrade Havelaar et un des deux logos bio, AB ou européen. Voilà, quelques marques disponibles. Donc, il y en a plusieurs. Je ne peux pas peut-être les donner à l'antenne, mais vous pouvez regarder sur Internet, vous en trouverez. Vous pouvez regarder dans les rayons, surtout. Alors évitez en somme ceux qui ont par contre le label UTZ Certified, Rainforest Alliance ou les trois grands A, car leurs plantations de caféiers peuvent recevoir engrais et pesticides chimiques. Il faut savoir que pour limiter les pesticides, le meilleur moyen c'est que les producteurs fassent fructifier leurs caféiers à l'ombre, comme à l'état sauvage, et comme le système traditionnel de culture du café le fait. En permettant aux caféiers de prospérer dans cet habitat, ils nécessitent moins de produits chimiques et de mécanisation coûteuse. Les arbres qui sont cultivés en intercalaire avec le caféier non seulement fournissent de l'ombre, mais ils ont un potentiel de capter le carbone de l'atmosphère. Selon le projet Drawdown, c'est en anglais, qui examine les 100 meilleures solutions au changement climatique, Si davantage d'agriculteurs adoptent des systèmes de culture intercalaires comme ceux utilisés dans les plantations de café, ils pourraient potentiellement séquestrer beaucoup de dioxyde de carbone, CO2, au cours des 30 prochaines années. Avantage supplémentaire de la culture à l'ombre, c'est d'attirer une myriade d'oiseaux qui agissent comme un insecticide naturel pour les graines de café. Comme le montre une étude réalisée en 2013 sur les effets des systèmes traditionnels de culture de café sur la déforestation en Éthiopie, le café cultivé à l'ombre peut contribuer à ralentir la perte des forêts. En plus de ses avantages environnementaux, la culture intercalaire avec des arbres fruitiers ou à noix signifie une récolte plus diversifiée, en fin de compte, des moyens de subsistance plus stables. Alors, bien que les rendements globaux puissent être un peu inférieurs à ceux d'un système technifié avec culture au soleil, sans abri par des arbres compagnons, le café cultivé à l'ombre signifie plus de sécurité économique, moins de mécanisation et un écosystème plus sain. Donc, par contre, le café cultivé au soleil n'est qu'une autre façon de décrire un système relativement nouveau de culture du café technifié ou dit industriel. Ce type de production a été lancé dans les années 70 par l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Banque mondiale qui cherchaient à augmenter les rendements et faire baisser les prix. Tout ceci grâce à une nouvelle plante hybride de café nécessitant des produits agrochimiques et une exposition totale au soleil qui a mené bon nombre de cultivateurs à couper leurs forêts et à troquer leurs cultures traditionnelles pour celles de la plante hybride. Pourtant, avec le recul, on s'est aperçu que ce système de café industrialisé peut entraîner de nombreux problèmes comme l'érosion des flancs de montagnes, la pollution chimique des cours d'eau, la dégradation des sols, la déforestation. Mais alors que de nombreux pays producteurs de café, comme la Colombie et le Brésil, ont adopté ce nouveau mode d'exploitation au soleil, aujourd'hui, et pour ça je cite l'avis d'une doctorante canadienne en environnement, aujourd'hui la quasi-totalité du café produit au Mexique est cultivé en milieu agroforestier, c'est-à-dire à l'ombre des arbres environnants. Un autre intérêt de la culture sous couvert forestier, c'est qu'il protège les caféiers contre des températures extrêmes, en plus d'amortir les précipitations avant qu'elles n'atteignent les plants. C'est toujours l'avis de la doctorante. Sur certains paquets de café trouvés en supermarché et dits équitables et bio, apparaît bien la mention « caféier cultivé à l'ombre », ce qui montre discrètement où se trouvent les solutions pour se procurer du café bio sans pesticides. Je viens d'évoquer les températures extrêmes, les précipitations, les marques du réchauffement climatique planétaire indéniable que l'on observe. Ce réchauffement climatique, c'est aussi une menace pour nos habitudes alimentaires, comme le rappellent deux articles, un de 2016 et un de 2018. Alors l'article de 2016, il cite un rapport d'une organisation australienne mandatée par l'organisation label Fairtrade. Eh bien, la production mondiale de café va baisser de 50% d'ici 2050 et les caféiers sauvages sont menacés d'extinction en 2080. La faute essentiellement au réchauffement climatique. Donc, cette équipe a mesuré l'effet de la température sur la production du café arabica en Tanzanie. 137 kg de moins par hectare et par an pour 1 degré de hausse de température minimale. La productivité dans ce pays aurait chuté de 50% depuis les années 60. L'augmentation de la concentration de l'air en CO2 pourrait réduire cet impact en favorisant la croissance, mais cet effet n'est pas prouvé, explique ce rapport. Le café Robusta, lui, résiste mieux à la chaleur, mais ne représente aujourd'hui que 30% de la production mondiale. Et en plus, cette espèce a un arôme moins apprécié et donc moins consommé en Europe, du moins. Alors, deuxième article de 2018, selon une étude publiée dans la revue de l'Académie des sciences des États-Unis en 2017, la production mondiale de café pourrait fortement diminuer d'ici 2050. Donc, c'est le même avis. Ce scénario le plus pessimiste est la conséquence directe du réchauffement. Le directeur de l'OIC, qui est l'Organisation internationale du café, lors du premier forum mondial des producteurs en juillet 2017, prévenait, je cite, « Le café est très sensible aux légères variations de température. À mesure que la température montera, tous les pays seront affectés. » Donc, boire une tasse de café le matin pourrait devenir un luxe, mais cela ne se limiterait pas au café. Cela concernerait aussi, c'est ce que disent ces articles, le chocolat, le vin, la bière et les huîtres. Cinq produits symboles de notre mode de vie qui pourraient se faire bien rares dans les prochaines décennies si rien n'est fait pour endiguer le réchauffement. Alors, quatrième geste écologique à notre portée, bien que ce soit plus cher, si on opte pour des capsules, parce qu'on a déjà acquis une cafetière pour capsules, utilisons des cafetières compostables, hein, ça existe, ou des capsules réutilisables ou des capsules recyclables. Sur un an, pour la consommation quotidienne de 2 tasses de café par jour, l'utilisation d'une machine à filtre avec du café moulu premier prix coûtait en 2012 230 € de moins qu'un café par capsule et machine à capsule haut de gamme. Voilà. Les deux derniers gestes écologiques dont nous sommes capables. Éviter parmi les cafés pris hors la maison ceux servis avec contenant et cuillère en plastique. Pourquoi ne pas emmener, quand c'est possible, une thermos faite chez soi, l'utiliser au travail, par exemple. Le dernier geste écologique, qui est une lapalissade, consommer moins de café, tout simplement, ou du moins bien faire attention à ne pas gaspiller son café. C'est en gros, un café filtre, c'est une cuillère à soupe bombée par personne et pas plus, quoi. Alors, quels sont les composés du café? Le principal, c'est la caféine, qui existe donc dans les cafés, mais aussi dans d'autres boissons. Alors, en moyenne, une tasse d'expresso de 60 ml de café arabica apporte 80 mg de caféine. Mais c'est très variable en fait, parce que dans une étude écossaise qui a été faite en 2014 sur plus de 100 expressos, le taux de caféine allait de 50 à plus de 300. Donc là, quand on parle de 80 mg, c'est une moyenne. Donc tout ça, c'est bien approximatif. Donc voici d'autres chiffres aussi approximatifs. La dose individuelle de café arabica à passer dans un filtre et d'une cuillère à soupe bombée, donc c'est à peu près 10-15 grammes de café. Donc quand on boit 200 ml du breuvage filtré, donc un grand bol, cela apporte 100 mg de caféine. Et ici, il s'agissait de Robusta, le double. À savoir qu'une tasse de café décaféiné contient quand même quelques milligrammes de caféine, 2 à 10 mg. D'ailleurs, ce café décaféiné est peu bu, représentant à peine 4% des ventes en France. Alors, autre produit du petit déjeuner qui contiennent de la caféine, par exemple, c'est le thé, qu'il soit noir ou vert, qui apporte un bol, apporte à peu près 50 mg de caféine. Une canette de boisson énergisante, c'est 80. Une de coca, c'est 45. Ce à quoi on pense moins souvent, c'est que le chocolat noir, c'est une barre de chocolat, c'est 30 mg de caféine et 3 fois moins avec du chocolat au lait. Alors, combien tout ça, pour donner ces chiffres approximatifs, c'est parce qu'il y a quand même une dose maximale de caféine qu'on supporte. Alors, combien on peut en supporter par 24 heures? Ça a été étudié et il y a une dose validée. C'est maximum 3 mg par kilo de poids corporel. Donc, si on fait 60 kilos en deux prises, donc si on fait 60 kilos, c'est 180. Pour tous, hein, sauf les femmes enceintes. Quand je dis tous, c'est aussi les enfants et les adolescents. Donc, ces 3 mg kilo, ça correspond en gros à un bol matin et soir. Matin et le deuxième plutôt avant 16 heures, d'ailleurs pas le soir. Sinon, pour certains, ça empêchera de dormir, on en reparlera. Donc, pour une femme enceinte, la quantité est à diviser par deux, au-delà duquel, au-delà de ce bol par jour, il y a un risque de fausse couche, d'accouchement prématuré, de faible poids de naissance, car la caféine franchit la barrière du placenta. Par ailleurs, la femme allaitante doit savoir que la caféine passe dans le lait maternel. Alors que la consommation de caféine a tendance à augmenter, autant à partir de café qu'à partir de boissons énergisantes, contenant de la caféine, guarana, coca. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, la NSES, hein, en 2016, avait recommandé une vigilance sur nos doses, car environ 30% de la population adulte et 1 à 2% des enfants et adolescents dépassent le seuil de caféine retenu comme générateur d'anxiété. Par ailleurs, près de 7% de la population française adulte excède le seuil au-delà duquel une toxicité chronique est suspectée. L'agence donc recommande aux consommateurs d'être particulièrement vigilants vis-à-vis de ces apports de caféine, notamment pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les enfants et adolescents qui sont particulièrement sensibles à la caféine, et ce qui les expose aux perturbations du sommeil, des somnolences diurnes et au risque des développements ultérieurs de conduite addictive. Hein, donc la conduite addictive au Coca-Cola, c'est bien connu, c'est dû à la caféine, mais pas uniquement. Et donc quand je vois des enfants qui boivent un coca le soir, mes cheveux se dressent sur la tête. Dernière personne pour qui il faut être vigilant, ce sont celles qui ont certains troubles cardiovasculaires, psychiatriques, neurologiques ou insuffisance rénale. Alors, pour tous les consommateurs, l'agence recommande d'éviter la consommation de caféine en association avec l'alcool. Par ailleurs, il ne faut plus absorber de café moins de 2 heures avant un effort sportif important. La caféine est donc bien connue à faible dose pour ses effets stimulants sur l'humeur, la vigilance, l'énergie, y compris la capacité de concentration et l'efficacité dans les tâches intellectuelles. Balzac était un très grand amateur de café et travaillait énormément avec, écrivait grâce au café. La caféine est bien connue aussi pour ses effets indésirables nombreux. Anxiété, tachycardie, troubles du sommeil. Il existe dans la population générale une très grande variabilité de la sensibilité aux effets de la caféine. Cette variabilité est liée à plusieurs facteurs. En particulier, 2 facteurs génétiques. Un au niveau du foie, un au niveau du cerveau. Alors au niveau du foie, la dégradation, qu'on appelle la métabolisation, la dégradation quasi exclusive par un enzyme spécialisé est lente chez 50% de la population. Cette métabolisation lente rend donc plus sensible à la caféine. Normalement, la caféine a une demi-vie de 2h30 à 4h30. En demi-vie, c'est le temps nécessaire pour éliminer la moitié de ce qui est ingéré. Alors, deuxième variabilité aussi des sujets aux effets de la caféine, c'est qu'au niveau du cerveau, notre sensibilité est variable à cause de la variabilité de dégradation de la caféine sur un récepteur spécifique qui est de l'adénosine, si ça vous intéresse. Alors, autre facteur qui entraîne une variabilité des effets de la caféine, c'est le fait de prendre de manière chronique du café ou pas, le fait d'avoir une exposition commune avec du tabac, de l'alcool ou certains médicaments. Donc pour le tabac notamment, il accélère la dégradation de la caféine, donc il diminue le temps des effets du café, alors que l'alcool ralentit sa dégradation. Pendant la grossesse, la caféine est aussi moins vite dégradée, d'où la prudence sur les doses pour la femme enceinte. Alors en conséquence, les individus ont tendance à ajuster leur consommation pour atteindre un équilibre entre les effets positifs et les effets négatifs éventuellement ressentis. Alors, autre constituant à part la caféine. Le café contient plus de 1000, alors certains disent 800, composés volatiles ou non, dont certains n'ont toujours pas été identifiés. Outre la caféine, le café contient une grande concentration d'antioxydants, qui sont appelés aussi polyphénols, qui piègent les radicaux libres, on en parlera un jour. Dans la population française, le café représente 65% des apports quotidiens en antioxydants. En gros, 6 à 7 fois plus que le thé ou le vin, et 8 fois plus que les légumes, et 13 fois plus que les fruits. Ce que je n'avais personnellement pas vraiment bien mesuré. Alors, quels sont les effets du café sur notre santé? Les effets de la caféine seule. Par exemple, on sait que la caféine en prise aiguë est associé à des médicaments antidouleurs comme l'aspirine, l'ibuprofène, le paracétamol, pour faire disparaître un accès aigu de migraine. Mais attention, au-delà d'une certaine dose et en prise chronique, la caféine, donc même dans un médicament, hein, la caféine ou la caféine dans un médicament antidouleur en excès peut provoquer des maux de tête qui ne passent qu'en se sevrant de cette caféine ou de ce médicament antidouleur avec du café. Ça, c'est très connu des médecins. Autre effet de la caféine seule, c'est que le café a un discret effet temporaire de dilatation des bronches. Et pourquoi pas le proposer si on est démuni d'un traitement classique de l'asthme, mais donc sans dépasser les doses de caféine maximales. Notons aussi que la caféine stimule le transit intestinal et la production d'urine. Attention donc à harmoniser prise de café et impératif de notre vie quotidienne, vous voyez ce que je veux dire. Alors, autre effet du café, des effets conjugués de la caféine et des antioxydants. Par exemple, la tension artérielle est augmentée par la prise de caféine seule, mais pas par le café complet. En effet, il y a des acides chlorogéniques dans le café qui abaissent la tension artérielle et qui compensent l'effet antihypertenseur de la caféine. Dans la maladie de Parkinson, il est probable que les effets des antioxydants soient conjugués avec ceux de la caféine pour diminuer le risque de développer cette maladie, principalement chez les hommes, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est suite à une étude de 2010. Alors, dans d'autres situations, il y a un effet préventif qui est attribué aux seuls antioxydants présents dans la boisson. Par exemple, la consommation de 3 à 4 cafés par jour sur une période de 4 ans avait réduit dans une étude le risque de développer un diabète de type 2 chez des prédiabétiques, c'était à peu près 30% de diminution. Ce phénomène avait été observé dans les deux sexes. Le café décaféiné a le même effet que le café ordinaire, d'où l'effet principalement médié par les antioxydants contenus le café, donc pour le diabète. Bon, tout ça, c'est bien joli. Pour prévenir un prédiabète ou un diabète, on ne va pas se contenter de prendre du café. Il faut quand même que les patients fassent un régime restrictif en calories, qu'ils fassent du sport aussi, et que le café et qu'ils prennent pas son café avec du sucre ou de la crème. Voilà. On va parler sur consommation de café et cancer. Alors en mai 2016, se sont réunis 23 experts internationaux au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, c'est le fameux CIRC, qui a voulu évaluer la cancérogénicité éventuelle du café, donc le caractère cancérigène quoi, hein, du café et de toute boisson consommée brûlante. C'était le titre de leur rapport. Donc ils disposaient de plus de 1000 études. Et donc, ils ont surtout donné le plus de poids aux études qui contrôlaient de manière adéquate des facteurs qui pouvaient troubler les statistiques, comme le tabac ou l'alcool. Au final, la combinaison des données suggérait, mais sans preuve absolue, l'absence d'augmentation de cancer quand on consommait de manière chronique du café. Alors, dans quel type de cancer ? Pour les cancers du sein chez la femme, pour le cancer de prostate chez l'homme, pour le cancer du pancréas dans les deux sexes. Par contre, à l'inverse, il semblerait qu'il y ait une diminution des risques de cancer de l'endomètre et de cancer du foie. Alors, je vais détailler un peu. Pour ce qui est du foie, le risque est bien confirmé diminué avec une étude récente publiée en 2020, donc il confirme ce qui est pensé en 2016. Mais celle-ci, donc de 2020, précise que boire du café est quand même bien moins protecteur contre le cancer du foie que le fait d'arrêter de fumer, de réduire sa consommation d'alcool ou de perdre du poids. Le groupe du CIRC concluait déjà en 2016 que le café est associé à des effets bénéfiques sur la fibrose hépatique et la cirrhose, ou sur l'évolution hein, de ces deux pathologies. Voilà, donc indépendamment du cancer. Alors pour ce qui est de l'endomètre, le site officiel du CIRC en 2020, et non plus en 2016, donc tout récemment, dit à propos des facteurs de risque de cancer de l'endomètre, je cite, « Le niveau de preuve scientifique du lien entre consommation de café et diminution du risque de cancer de l'endomètre est considéré comme probable. » Cet effet protecteur a été identifié avec du café contenant de la caféine et du café sans caféine, ce qui ne permet pas donc d'attribuer cet effet à la caféine. L'élément du café à l'origine de cet effet protecteur n'a pas été identifié. Bon, là, c'est intéressant. Alors, pour le cancer de l'abdomen, je rappelle que c'est la paroi interne de l'utérus. Hein. La pratique d'une activité physique est probablement aussi un facteur qui diminue le risque de cancer de l'abdomen, parce que, bon, il vaut mieux ne pas être obèse, ça diminue le risque de cancer de l'abdomen. Alors, dans le rapport de l'agence sanitaire du CIRC 2016, il n'est nullement évoqué le rôle cancérigène de l'acrylamide, qui est un cancérogène probable, reconnu depuis 1994 par le CIRC. Alors, c'est quoi cet acrylamide? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? L'acrylamide est un contaminant par voie digestive et qui est un danger chimique dans la chaîne alimentaire, dont le café. Alors, je précise bien, danger qui est assez bien contrôlé à ce jour, sans être réduit à zéro. Donc ça, c'est très important. La chaîne alimentaire n'étant pas la seule en cause, car l'exposition respiratoire à l'acrylamide est aussi largement présente, avec le tabagisme actif comme passif, et dans de nombreux ateliers de production industrielle diverses, où le taux d'acrylamide est surveillé. Alors pour ce qui est du café, je m'explique. L'acrylamide est un composé organique qui se forme principalement dans les aliments riches en amidon, hein, donc des sucres, des glucides, associés à un certain acide aminé, l'asparagine. L'asparagine réagit avec l'amidon pour produire cet acrylamide. Il n'apparaît donc que dans certains aliments que s'ils sont cuits à une température supérieure à 120 degrés, tels que notamment les grains de café torréfiés, que ce soit sous forme de café soluble ou de café moulu. On verra plus tard dans quelles conditions l'acrylamide apparaît dans les céréales, le pain, pour ce qui concerne les petits déjeuners. La liste des aliments consommés aux autres repas, comme les pommes de terre trop cuites ou des chips, sera évoquée dans d'autres émissions. Sur la base d'études menées sur les animaux, l'autorité européenne de santé alimentaire, l'EFSA, a confirmé en 2007 ses évaluations antérieures selon lesquelles l'acrylamide dans les denrées alimentaires est susceptible d'accroître le risque de développer un cancer pour les consommateurs dans tous les groupes d'âge. Étant donné que l'acrylamide est présent dans un large éventail d'aliments de consommation courante, ces préoccupations s'appliquent donc à tous les consommateurs. Mais les enfants sont le groupe d'âge le plus exposé sur la base du poids corporel. Les teneurs en acrylamide peuvent être abaissés et sont abaissés grâce à des mesures d'atténuation qui sont mises en place depuis de nombreuses années. Elles entraînent une baisse des teneurs en acrylamide sans altérer la qualité et la sécurité microbiologique du produit. D'ailleurs, l'EFSA a fixé dans son règlement de fin de 2017 un taux limite à ne pas dépasser pour le café torréfié, qu'on prend donc en grains ou moulus, de 400 microgrammes par kilo, alors que pour le café instantané soluble, le taux limite est de plus du double. Taux d'ailleurs qui est le deuxième le plus élevé autorisé.
Nous avons une question qui est arrivée par SMS, oui. Un message de Marie-Aline qui écrit « Bonjour docteur, ne supportant pas le café à cause de la tension ou les maux de tête, je le mélange avec du lait. Est-ce bon ce mélange et quelle est la différence entre thé et tisane que je préfère et tolère ?» Merci Marie-Aline.
Eh ben, alors déjà, le fait d'ajouter du lait, ça dépend des personnes. Ajouter 10% de lait pour pratiquement tout le monde, ça ne provoque pas de problème. Mettre la moitié de lait, ça peut faire précipiter les caséines du lait. Et donc, ça peut retarder l'absorption du mélange et donner un peu des pesanteurs abdominales chez certains. Donc ça, chacun peut le tester. Et dans le deuxième aspect de la question, dans le thé, il y a moins de caféine, hein, on l'a déjà dit en début d'émission. Dans les fusions, il n'y en a pas du tout. Donc voilà. D'ailleurs, c'est bizarre que le café lui donne des maux de tête. Peut-être qu'elle en prend dans une trop forte dose. Au-delà d'un bol de café filtre ou ou deux capsules, enfin, où elle prend, parce qu'il y a aussi une intensité dans les cafés, hein, tout le monde regarde sur l'intensité de 1 à 8 ou 10. Donc voilà, on peut faire attention à ça. Donc je reprends le cours de ce que je disais. Donc il y a une limite qui a été fixée pour l'acrylamide de 400 microgrammes par kilo pour le café moulu ou en grains. Et par contre, c'est le double pour le café soluble. Et c'est 10 fois plus aussi pour le taux de curée. Donc ce taux autorisé double pour le café soluble vient du fait que les procédés industriels ne permettent pas d'abaisser plus le taux, comme le reconnaît à demi-mot une célèbre marque de Suisse de café soluble sur son site. Je cite « Nous prenons très au sérieux les préoccupations liées à la présence d'acrylamide dans les aliments et boissons. Nos efforts ont conduit à maintenir les niveaux d'acrylamide de nos produits en dessous des niveaux souhaités. » Cependant, si la Commission européenne imposait des restrictions plus strictes sans prendre en compte les limites actuelles des technologies, il se pourrait qu'il ne soit pas possible pour notre entreprise et d'autres de se mettre en conformité. Donc, personnellement, de tout ça, je déconseille, mais c'est un avis que personnel, la consommation de café soluble, comme celle de succès d'année avec de la chicorée pure. Moi, je pense que c'est un avis de précaution, mais bon, que je juge important de vous partager. Alors, lors de la mise au point des mélanges de café, les exploitants du secteur alimentaire prennent en considération dans l'évaluation des risques le fait que des produits à base de grains de type Robusta ont des taux d'acrylamide plus élevés que ceux d'Arabica. C'est une bonne nouvelle parce qu'on boit surtout de l'Arabica. Le règlement européen précise aussi que les industriels doivent réaliser un échantillonnage pour analyser au moins une fois par an sur les produits qui ont une teneur en acrylamide connue. Alors, très bonne nouvelle, dans la revue 60 millions de consommateurs d'avril 2018, l'acrylamide a été retrouvé dans les 14 marques de café moulu en dessous de la limite réglementaire de 400 microgrammes par kilo. D'ailleurs, 8 marques sur 14 avaient un taux moyen de 270 microgrammes, donc bien en dessous des 400. Et deux des 6 autres frôlaient la limite des 400 microgrammes et provenaient d'Amérique centrale, une du Honduras et l'autre du Guatemala. Voilà.
Nous venons de recevoir une autre question par oui. SMS. Alors, le message n'est pas signé. Simplement, la question, c'est que pensez-vous de la chicorée ?
Eh bien, voilà, je viens juste d'en parler. La chicorée, la limite autorisée est 10 fois... La limite autorisée en teneur d'acrylamide pour la fabrication industrielle de la chicorée, liquide ou en poudre, est 10 fois supérieure à celle du café moulu. Ça veut dire qu'en gros, les techniques industrielles ne permettent pas de diminuer ce taux, puisqu'ils ont autorisé un taux 10 fois supérieur. Vu les incertitudes que représente l'acrylamide et les efforts qui sont faits par les industriels, personnellement, je pense qu'il faut éviter une consommation chronique. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. C'est dommage parce que la chicorée est une production française. Et donc, voilà. C'est vrai. Alors, on peut diminuer en prenant des mélanges café-chicorée. Ça existe. Hein, il y a une marque célèbre. Le fait, par exemple, de prendre... il y a une autre marque célèbre de différentes céréales, de l'orge, avec de la chicorée et d'autres céréales. Le problème est sans doute le même. On en parlera plus tard, puisqu'on parlera des pains et céréales à la prochaine émission. J'évoquerai aussi ce sujet. Voilà, ben je crois qu'on arrive au bout de l'émission, parce que je ne veux pas commencer le chapitre sur le thé, on va rester là. Simplement, petite anecdote, il paraît, je ne sais pas, peut-être vous allez essayer. Je n'ai pas essayé cet été, parce que je n'avais pas cette notion, mais... Il paraît qu'on peut utiliser le marc de café qui est bien sec, donc il faut le faire sécher, et on le fait brûler, et que la fumée éloignerait moustiques et certains insectes. Alors, ma foi, j'ai vu ça dans plusieurs sites. Voilà. Par contre, je voulais me dire une petite chose, c'est qu'en préparant cette émission comme les précédentes, méfions-nous absolument de ce qu'on peut lire sur Internet, même avec des gens, des blogs, tout ça, des gens qui paraissent sérieux, quand ils ne donnent pas leurs références, par exemple sur la diminution de tel cancer ou l'augmentation du risque. Ils ne donnent pas les références scientifiques qui sont le résultat de leur dire. Et je trouve ça dangereux parce que souvent, il y a des inexactitudes. Et bon, c'est toujours pareil, Internet, il y a le meilleur et le pire. Voilà, bah écoutez, au mois prochain, on continuera sur les petits déjeuners, thé, chocolat. Alors, est-ce que vous êtes café ou thé ? On en reparlera la prochaine fois.
Merci, docteur Jean-Pierre Frances. Au mois prochain.